Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Guillaume Sébastien, bonjour Stéphane Covio. Parmi les célébrations que nous avons dans cette année 2024, il y a le 250e anniversaire de la naissance de Caspar David Friedrich. Alors, il y a des expositions formidables à Hambourg, une exposition thématique indépendante au Hamburger Kunsthalle. Ça va, ça s'est terminé malheureusement, mais vous avez jusqu'au janvier 2025 à l'Albertinum de Dresde l'exposition Caspar David Friedrich Wo alles begann, qui explore les débuts de l'artiste. Au musée des estampes et des dessins de Dresde jusqu'au 17 novembre, une présentation des dessins de Caspar David Friedrich. Et puis à l'Alte Nationale Galerie de Berlin jusqu'au 4 août, il y a une grande exposition avec plus de 60 tableaux, plus de 50 dessins de Friedrich, dont des icônes mondialement connues comme La mer de glace, Les étapes de la vie. C'est une exposition magnifique que vous êtes allés voir tous les deux et vous allez nous en parler. Voilà. Alors, un peu pour situer, la jeunesse de Caspar Friedrich, il est né en 1774, a été assez marqué par la mort de ses proches, sa mère, sa sœur, un frère. Il va se former très vite au paysage et la peinture est pour lui, sa peinture, il est vraiment un paysagiste. Et il côtoie Goethe, Novalis, vous savez que dans la littérature de l'époque, que nous appelons romantique, à raison d'ailleurs, la nature illustre toujours ou presque l'intérêt du personnage, qu'il soit le héros ou le poète. Et c'est bien cette attitude-là que va développer notre ami Caspar David Friedrich. Alors, que voit-on à Berlin ?
Alors, d'abord, c'est à Berlin, cette exposition, donc c'est un peu loin peut-être pour nos auditeurs, mais ce que je voulais dire tout de suite, c'est
cool,
que...
Hein.
Oui, et c'est pas très cher.
Et c'est
vous avez
pas cher,
un billet
ouais.
d'avion aller-retour entre 100 et 120 euros.
On peut y aller
c'est
en
presque
train
moins
aussi.
Cher qu'un un billet de train Paris-Nantes. On peut y aller en train aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas très cher, d'une part. Mmh. Et ensuite... Caspar David Friedrich, donc très grand artiste, très grand peintre allemand du romantique majeur. On ne voit très rarement, on ne voit jamais autant de tableaux réunis. La dernière fois que autant d'œuvres de lui ont été montrées, c'était en 1906 en Allemagne, à Berlin.
Vous vous rendez compte ?
Et là, on voit effectivement une centaine d'œuvres, 60 peintures. Donc c'est vraiment beaucoup. Je crois que la production de Caspar David Friedrich, c'est plus de 500 tableaux, donc ce n'est qu'un dixième de sa production, certes, mais en France, il n'y a que trois tableaux de lui, dont deux au Louvre, dont un tout petit parmi ces deux au Louvre. Donc en voir 60 tableaux, 50 dessins, réunis au même endroit, ça vaut vraiment le coup de dépenser 120 euros pour aller à Berlin, qui est une ville en plus très, très agréable.
Surtout en ce moment, au début de l'été, ça c'est
alors,
merveilleux.
L'exposition, effectivement, est une exposition anniversaire à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Friedrich. Vous l'avez dit tout de suite, et je crois qu'il faut le rappeler, son enfance, sa vie a été marquée par la mort. Avant 17 ans, il avait perdu sa mère, un de ses frères, deux sœurs, et surtout ce frère dans des conditions tragiques, puisque ce frère a sauvé Caspar David, qui se noyait. Il a été effectivement marqué par ces événements.
Il est mort en sauvant son
en
frère.
Sauvant son frère, absolument. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que la mort est un sujet qui est récurrent chez lui. Mais là, c'est une exposition qui est sur un thème particulier, qui est le thème principal de Friedrich, qui est celui du paysage. Donc l'exposition s'appelle Paysage infini.
David Danger disait, cet homme a découvert la tragédie du paysage. Je trouve ça très beau comme expression. Et c'est un peu ce qu'on ressent.
Oui, alors c'est un peu... La tragédie, on évoquait la présence de la mort, et c'est aussi la question de l'infini dans le paysage. Qu'est-ce qui s'exprime par le paysage pour Friedrich ? Friedrich, c'est quelqu'un qui considère que la nature, c'est l'œuvre de Dieu, et qu'en contemplant la nature, on rejoint le divin. Il a aussi une manière très très subjective et très personnelle d'entrer en relation avec le paysage, et ce qui confère à ses tableaux une poésie très particulière. Moi, j'aime beaucoup la peinture de Friedrich. J'y suis venu tardivement. Au début, ça m'emballait pas. J'avais l'impression, je croyais que c'était académique, etc. J'avais une certaine distance. Et puis maintenant que je vais régulièrement à Berlin et que j'ai l'occasion tous les ans de passer du temps face aux 15 tableaux, parce qu'il y a 15 tableaux dans la collection permanente de la Alte National Galerie. Là, il y en a 60 en tout. Et puis aussi quelques très beaux tableaux de Friedrich qui sont au château de Charlottenburg, dans un petit bâtiment qui a été construit par Schinkel, qui est un architecte contemporain de Friedrich au tout début du 19e siècle, qui ne sont malheureusement pas dans l'exposition actuellement. Il faut aller aux deux endroits pour les voir. Et donc, il y a une poésie très particulière de ces paysages. Moi, j'ai un paysage dans la tête.
On est en plein Sturmundrang.
Alors, c'est possible.
Oui.
Et moi, j'ai un paysage en tête qui est tout simplement un arbre seul. C'est un énorme chêne mais qui est là, planté dans le paysage, avec des prairies devant, une mare devant, des prairies derrière, et des prairies qui vont très loin. On distingue une petite ville, voilà, dont les clochers dépassent. Et puis, plus loin encore, on a des montagnes très grandes. Et puis, le ciel continue là-bas, dans les lointains. Vous voyez, c'est vraiment cette question de l'infini qui apparaît comme ça, et avec énormément de subtilité dans les passages d'un espace à l'autre. Et on a cet arbre qui est en plein milieu du tableau et qui, en fait, passe au-dessus de l'horizon à un moment donné, à un endroit où les deux au fond, il y a deux montagnes qui forment un V, et l'arbre dépasse au milieu de ce V. Et la partie qui dépasse au-dessus du V, donc qui est entièrement sur fond de ciel, ressemble à une croix. Mmh. C'est un morceau d'arbre qui est en train de mourir, en fait. Le faîte de l'arbre est déjà assez déplumé, et les branches sont nues, et il y a quelque chose qui renvoie à la croix. Très vraisemblablement, maintenant Gaspard David Rich n'est pas là pour nous en parler, mais il y a vraiment une évocation de ça. À chaque fois, je pense qu'on peut oser dire à chaque fois, c'est-à-dire quasiment dans tous ces paysages, il y a un symbolisme.
Il y a un symbolisme. Alors il y a toujours le personnage qui est tout petit, hein, personnage qui est tout petit pour montrer, pour accentuer l'immensité de la nature.
Oui. Oui, vous utilisez ce mot petit. Moi, j'étais frappé par la différence des tailles des œuvres de Friedrich,
oui.
Qui peint aussi bien sur des très petits tableaux, on en voit parfois dans des expositions temporaires à Paris, et puis sur des très grands formats. Et donc, moi, je n'avais jamais vu des tableaux aussi grands de Friedrich, qui font presque 2 mètres de largeur, et puis à côté des tableaux qui sont très petits. Et il peint avec la même intensité, la même subtilité, le même détail. Ça qui est incroyable, c'est que c'est une peinture extrêmement fine, raffinée. On ne voit pas de très, en fait, dans cette peinture. Alors, j'allais dire, elle est presque photographique, mais ça n'a pas de sens de dire ça, parce que c'est une peinture qui nous emmène dans le rêve, vous voyez, qui ne représente pas quelque chose, mais qui est complètement mentale. C'est une peinture de l'âme, d'ailleurs. On dit que les peintures de Friedrich sont des peintures de l'âme, des tableaux de l'âme. Et effectivement, cette nature, et notamment dans les grands formats, est immense. Et les personnages très petits. Il y a en ce moment une exposition au Petit Palais à Paris sur Théodore Rousseau, donc qui est un peintre du 19e. C'est bien sûr pas la même chose, mais chez l'un et chez l'autre, il y a cette nature qui est présente, et dans laquelle, bien sûr, le divin se cache.
Alors, il y a des rapprochements à faire entre les deux expositions, c'est remarquable, hein, parce que, par exemple, Rousseau a pris l'habitude de faire des premiers plans dans l'ombre et un lointain dans la lumière. Et très fréquemment, chez Gaspard Friedrich, on a la même composition, c'est-à-dire que le spectateur est dans l'ombre et contemple des lointains illuminés. Il y a la question de la taille de l'homme dans le paysage. Chez Rousseau, vous avez l'allée de l'île Adam, qui est au milieu de l'exposition, où on voit une petite femme qui garde ses vaches, qui est appuyée contre un chêne qui est gigantesque. Il faut vraiment imaginer le romantisme et Victor Hugo avec l'homme tout petit dans cet immense paysage. D'ailleurs, on pense que Courbet a été marqué peut-être par un tableau de Gaspard David Friedrich pour peindre ce célèbre tableau qui est, je crois, à Montpellier, où on voit un homme qui est sur la plage de Palavas, minuscule face à l'univers. Et on a vraiment, comme vous dites, cette échelle. Et on a aussi quelque chose, moi, qui me touche beaucoup dans les tableaux de Gaspard David Friedrich, un personnage de dos en train de contempler le lointain. C'est-à-dire que nous voyons, nous, spectateurs, quelqu'un qui est dans la même position que nous, le regard tourné vers le lointain, souvent à la tombée du jour ou dans la nuit, avec un éclairage lunaire. Alors là, il y a des très belles pénombres, ça, faudra qu'on en parle.
Sturmundrang, tempête et impétuosité, et naturellement Gaspard David Friedrich en est vraiment le peintre au centre du mouvement. Et en 1824, on pouvait entendre dans la nature ceci. Et voilà le beau temps qui revient sur ces notes de flûte. Vous avez reconnu la scène d'orage de la 6e symphonie dite pastorale de Ludwig van Beethoven. C'était Fritz Reiner qui était à la tête du symphonie de l'Orchestre symphonique de Chicago. L'œuvre est achevée en 1924. C'est l'année du déclin physique de notre ami Caspar David Friedrich, qui va être atteint de paranoïa, qui va le couper d'autrui et de ses amis. Et ça va être un peu compliqué pour lui à vivre. Revenons sur cette exposition de Berlin. Qu'est-ce que vous nous rapportez d'autres?
Bah, c'est magnifique. Moi, j'avais envie de parler des ciels, des tableaux, ouais, qui sont incroyables, qui sont si différents, si intenses, si minutieux.
Et qui prennent une telle place dans la toile. Hein.
Oui, absolument.
Parce que, souvent,
oui,
le ciel occupe, oui, plus de la moitié de la toile.
Oui, souvent, oui, deux tiers de la toile, avec des dégradés de couleurs dans ces ciels. Donc certains sont gris, enfin vont du blanc au gris, d'autres sont d'un bleu intense, d'autres très bleus. Enfin, c'est extraordinaire, je trouve, la richesse de cette peinture, la façon, la dextérité de ce peintre qui fait... Alors, on se pose toujours la question... Moi, je suis frappé les gens qui disent « Mais est-ce que ce peintre est un bon peintre ?» Voilà, comme si... mais moi, il me semble...
Alors là, il n'y a pas de doute, voilà, au moins.
Il me semble qu'un bon peintre, c'est quelqu'un qui ne ressemble à aucun autre, enfin, oui, qui fait quelque chose de totalement nouveau. Et même sans être historien de l'art, quand on arrive devant des tableaux de Friedrich, on se rend compte qu'on n'a jamais vu ça auparavant. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est très particulier. On ressent devant ses œuvres vraiment... une intensité qui est très particulière, des sentiments très profonds. Donc, ce qui fait vraiment de ce peintre un peintre extrêmement singulier, assez allemand quand même.
Ah, très allemand.
Parce qu'il y a une intensité dramatique, oui, chez lui qu'on ne retrouve pas chez des peintres français. Alors, ou des peintres italiens.
Il était assez lié à Goethe. Hein. Ouais. Ils vont échanger une cinquantaine de lettres assez importantes. Et donc, il est complètement dans ce grand mouvement du romantisme, hein, et qui n'existe que là-bas. Là, on peut pas comparer à Delacroix, quand même.
Moi, je pense aussi à certaines toiles, des petites toiles, qui sont des nocturnes.
Ah oui.
C'est un grand peintre de la lune. Il y a beaucoup de clairs de lune. Il y a des clairs de lune sur l'eau. Il y a des clairs de lune sur les montagnes. Je trouve ça très, très beau. Et c'est compliqué pour un peintre de peindre les variétés dans le sombre. Les variétés dans l'obscurité. Je pense souvent à Millet, qui réussit à faire cet étagement en profondeur du premier plan jusqu'à la petite église au fond, alors qu'on est dans une semi-obscurité. Eh bien là, on a de quoi se régaler avec Caspar David Friedrich, parce qu'on a l'équivalent avec ces lointains dans l'obscurité. On a aussi, il y a un goût particulier chez lui pour ce qui va faire en sorte que les formes ne vont pas être distinctes. Donc l'obscurité permet de le faire, mais aussi la brume permet de le faire. Il y a un absolument splendide paysage que je n'avais jamais vu, qui est une montagne entièrement couverte de brume, et on voit petit à petit la brume se dégager pour laisser apparaître des bouquets d'arbres, des rochers, des détails de ci, de là. Et c'est d'une extrême délicatesse la manière dont il parvient à créer cet effet de transparence. Et il faut vraiment s'accoutumer soi-même au tableau pour voir petit à petit les choses émerger. Et on voit à un moment donné émerger au sommet de la montagne une croix. Hein, puisque, encore une fois, comme quasiment tout le temps, il y a un symbolisme. C'est le premier peintre à avoir proposé un tableau de paysage pour un retable. Ce fameux retable de Retschen, qui se trouve quelque part dans une église en Allemagne, où, en fait, il a réalisé une montagne couverte d'une forêt, et au sommet, un crucifix tourné vers le fond, et il se trouve qu'à l'arrière de cette montagne, il y a un soleil qui crée un contre-jour, et donc on a face à soi cette montagne, cette obscurité qui est quasiment transfigurée. Donc évidemment, c'est un tableau qui nous parle de transfiguration, enfin de résurrection, de lumière qui vient dans le suite à l'obscurité, et c'est tout à fait étonnant de voir ça. Il y avait au musée Marmottan l'année dernière un splendide petit tableau de Friedrich, toujours, qui a montré les saintes femmes qui allaient au tombeau le matin. Oui, je ne sais pas si vous souvenez cette petite chose merveilleuse.
Nous allons parler de cette exposition.
Exactement, oui. Il y en a parlé de ce tableau aussi, oui, qui est une interprétation vraiment très riche et très inspirée de ce moment du matin, avec un soleil qui se lève, mais qui pointe très légèrement.
Alors, vous avez parlé de la nuit et de la lune. Dans les ingrédients esthétiques du romantisme, on a ces trois points fondamentaux que sont les ruines, la nuit et la voix. Et on a des ruines dans le... dans les tableaux de Friedrich.
Ah oui, oui, oui.
Et elles sont tout le temps là. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esthétique romantique par excellence. On a la nuit, bien évidemment, et curieusement, on a la voix. Parce qu'on a toujours le petit personnage et on imagine le son de la voix parce qu'on n'est pas écrasé par le paysage silencieux ou par le silence du paysage, mais au contraire, on va vers ce paysage. Et c'est ça que je trouve très intéressant pour reprendre encore une fois ces trois ingrédients d'esthétique romantique.
Ah, c'est une esthétique qui a, comment dire, il a connu un succès phénoménal en 1810, au moment où le Crown Prince, le prince héritier de Prusse, est tombé amoureux de deux tableaux qu'il a présentés cette année-là et qui ont été achetés par le roi de Prusse, son père. Et ces deux tableaux forment une paire, sont deux grands tableaux. L'un qu'on a appelé Un moine au bord de la mer, qui en réalité n'est pas forcément un moine, parce qu'on regarde de près, on peut discuter de ça, avec cet immense horizon maritime. C'est un personnage qui est seul sur les dunes. Et puis à côté, justement, cette ruine d'une abbaye. Alors, le titre du tableau, c'est Abbaye dans un bois de chêne, je crois. Et on a toute une série d'arbres qui paraissent morts, me semble-t-il, à moins que ce soit par l'hiver. On a cette ruine d'abbaye, ces moines qui avancent. On a l'impression qu'il y a un enterrement. Tout est sombre. Il y a une petite lumière, toute petite lumière. Et en fait, le sujet n'est pas uniquement la mort. Le sujet, c'est aussi l'espérance et la manière de traverser tout ça. Et la sagesse de ces moines.
Le tableau s'appelle « L'abbaye dans la forêt », exactement. Et,
ouais.
Et en guise d'abbaye, on a simplement un bout de l'abbaye qui est effectivement enchâssé entre des arbres qui sont morts et...
Enfin, nus. C'est-à-dire, c'est une scène d'hiver.
Oui.
C'est une scène d'hiver et on voit ces moines au tout premier plan qui sont tout petits, comme toujours. Il y en a 6 ou 5, je ne sais plus. Et vous avez la croix du cimetière qui est sur le bas à droite. Et on a ces moines qui traversent finalement ce paysage désolé. Enfin, il n'y a plus rien. C'est presque lunaire, non ?
Oui. C'est ça, et c'est une espèce de foi qui est maintenue. Toute petite au milieu de ce grand paysage marqué par la mort. Et je pense que ça nous parle de l'espérance aussi, de la foi de ces moines.
Est-ce que vous avez vu à Berlin le chasseur qui se tient parmi les arbres accompagné d'un corbeau ? Ou est-ce qu'il n'est pas alors, accroché là-bas ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu, et ça c'est une petite déception de l'exposition, le fameux tableau de Friedrich, qui s'appelle « Le voyageur contemplant la mer de nuages ».
Oui.
On voit ce personnage, cet homme...
De dos.
De dos.
Ça fait toutes les pochettes
imposant,
de disques de Beethoven. Hein.
Et qui effectivement... voilà,
il n'y est pas
qui compte... Non,
il n'y est pas.
Il était en Bourg, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans l'exposition, mais en tout cas il n'est pas...
Hambourg ne l'a pas prêté. Hambourg l'avait prêté il y a quelques années déjà pour une exposition au même endroit, c'est peut-être...
Il y en a 60 autres, donc c'est très, ouais, très bien.
À Hambourg, il y avait une exposition jusqu'au 1er avril, qui était une exposition thématique, comme je l'ai dit en introduction, mais ils auraient pu le relâcher quand même, celui-là. Puisqu'il est tellement connu, on le voit sur toutes les pochettes de disques de la musique de cette époque.
Alors, il y a un tableau notamment de lui. Alors, il faut voir qu'il a une vie quand même tout à fait particulière, puisque comme vous l'avez dit, il est tombé malade de paranoïa à partir des années 1824.
Oui.
Donc en fait, sa carrière a été très courte, hein, puisqu'il connaît le succès en 1810, et puis les choses vont très vite s'arrêter.
Et il meurt oublié.
Et il meurt effectivement dans l'oubli le plus total. Et sa peinture va être redécouverte seulement au début du XXe siècle. Donc c'est une éclipse d'un demi-siècle, on va dire.
Mais quand même.
D'un demi-siècle. Et c'est en 1906 que le grand conservateur de l'Alte National Gallery de l'époque, qui s'appelle Tschudi, va proposer une grande exposition sur la peinture allemande en mettant à la place d'honneur Caspar David Friedrich. Alors moi, je pensais à un autre tableau qui, pour le coup, échappe totalement à l'ambiance sombre et mélancolique qu'on évoquait. C'est cette petite œuvre dans laquelle on voit sa femme de dos dans l'atelier à Dresde. Et en fait, elle est dans une pièce et elle regarde par une fenêtre. Et on voit des bateaux. C'est un tableau très très charmant. On la voit elle-même contempler des choses que l'on ne voit pas. On voit juste le haut des mâts derrière, donc on devine qu'il y a quelque chose. Et c'est un tableau qui est beaucoup inspiré, figurez-vous, Dali. Il y a un des sublimes Dali de Madrid, du musée de la Reine Sophie, qui montre une femme de dos accoudée à une fenêtre en train de regarder la mer. Et il est directement inspiré de celui-là. Et c'est vraiment intéressant de voir les deux, d'avoir vu l'un puis l'autre. Et c'est une inspiration totalement différente. beaucoup plus légère et beaucoup plus, beaucoup plus fraîche, en fait.
Alors, vous parliez de spiritualité. Il faut dire qu'il n'était pas tendre avec lui-même, parce qu'il va être d'une très grande rigueur en disant qu'on ne peut pas comprendre l'intérieur de la nature si notre propre intérieur n'est pas sain. Il va être très religieux, il faut le dire, mais surtout très très moral. Enfin, c'est un homme d'une rigueur morale.
C'est une famille protestante.
Oui.
Les protestants. Alors, il a surtout dit que un peintre doit surtout peindre ce qu'il a à l'intérieur de lui-même plutôt que ce qu'il a devant les yeux. Hein. C'est ça, surtout ce que Friedrich a dit. Ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, il affiche ses convictions religieuses, donc par effectivement les croix qui sont souvent dans ses tableaux, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, pour Théodore Rousseau, où effectivement il y a un sentiment religieux, mais qui n'est pas du tout affiché par des églises ou autre chose, qui est par contre ce qui est le cas chez Friedrich.
Et alors, il faut parler aussi des dessins dans cette exposition.
Il
y a de magnifiques dessins. Pour le coup, des dessins qui sont faits sur le motif. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le soin avec lequel il représente les chênes, le moindre détail d'un chêne. Et là aussi, rapport avec Rousseau. Rousseau, qui a un arbre de prédilection qui est le chêne, et dont on voit qu'il fait des portraits de chênes. Et franchement, quand j'ai vu certains dessins de Friedrich, je ne pouvais pas ne pas avoir dans l'œil la précision de l'anatomie de certains chênes tels que Rousseau les reproduit dans ses tableaux. L'un et l'autre ont un amour de cet arbre. Vous savez, Rousseau disait que s'il aimait à ce point les chênes, c'est parce que les chênes sont des individualités. Ce sont des arbres dont les branches prennent des formes tout à fait particulières. Un tilleul, vous le laissez pousser, ça devient un beau tilleul. Un chêne, c'est toujours très très particulier comme physionomie.
Oui, il faut bien rappeler cette exposition qui est au Petit Palais, à Paris, je crois.
Et qui se termine très bientôt.
Ben oui,
début juillet.
Donc il faut se précipiter. Parce que effectivement, moi j'étais stupéfait par cette exposition d'arbres, d'amour des arbres, et ces arbres qui sont vraiment des êtres, je le dis avec le S. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Sébastien et Stéphane Covio. Merci de votre retour de voyage de Berlin pour cette magnifique exposition Caspar David Friedrich en l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de ce magnifique peintre. Il me reste à remercier.
Pour réserver les places avant d'y aller, par exemple, pour les musées à Berlin.
On va réserver. Il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Clairet pour la réussite technique de nos entretiens. Demain, je recevrai Hélène Vézier pour son roman feutré, très feutré, pas impossible qu'on se marre. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.